Fille, vous voulez savoir l'origine du prénom Liselotte, le prénom de notre community manageuse?
Oui, qu'est-ce que c'est?
En fait, c'est le diminutif de Elisabeth Charlotte.
Et oui, aujourd'hui, nous allons parler d'Elisabeth Charlotte de Bavière.
Mais parlez moins fort, soyez moins hystérique, calmez-vous.
Tout le monde s'adresse au ministre en disant « Bonjour, monsieur le ministre », et à moi en disant tout simplement « Bonjour ».
Les femmes ont moins de place qu'avant dans les programmes d'histoire.
Je crois qu'il faut redonner aux hommes la place qu'ils ont dans la vie des femmes, c'est-à-dire pas la première place.
Ça n'est quand même qu'une nana.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Banana. Aujourd'hui, nous allons parler d'Elisabeth Charlotte de Bavière, aussi connue sous le nom de Madame Europe ou la commère du grand siècle.
Elle est née en 1652 au château de Heidelberg, en Allemagne, princesse de la branche palatine de la maison de Wittelsbach. Elle va épouser par procuration le 16 novembre 1671 le duc Philippe d'Orléans, fils cadet de Louis XIII et donc le frère de Louis XIV. À 19 ans, elle devient la plus importante princesse après la reine. Toutefois, lorsqu'elle arrive au château de Versailles après son mariage, elle ne s'y sent pas à l'aise. En effet, l'égoïsme et l'intérêt et surtout la notion de l'étiquette qu'elle déprécie. Et elle qui est peu intéressée par la nature, Rabelais, Montaigne, et qui s'intéresse beaucoup à la culture.
En effet, elle se retrouve mariée par procuration au duc Philippe d'Orléans, comme Margot l'a dit. Mais c'était par procuration car elle a de nombreuses fois refusé les parties qu'on lui présentait pour la marier. Elle souhaitait un mariage d'amour. Elle aime plus que tout son pays et sa liberté. Elle est d'origine allemande et elle a dû vivre dans la cour de France, ce qui fut pour elle un grand changement.
Oui.
En novembre 1671, elle épouse un certain Philippe de petite taille pour l'époque, mais juché sur des talons hauts et paré de bagues, bracelets et pierreries. Il est bien le duc d'Orléans. Des bruits courent à la cour que Philippe serait efféminé, petit, précieux et coquet. Tandis qu'Elisabeth
était plutôt vue comme quelqu'un plutôt masculine, robuste, simple et naturelle. Donc finalement, dans leur couple, les rôles étaient assez inversés. Et d'ailleurs, c'était malheureusement pas un mariage d'amour, puisque c'est assez connu comme quoi le duc était plutôt attiré vers les hommes. Et d'ailleurs, Liselotte était plutôt amoureuse, de Louis XIV. Bon, après, ça, ce sont des rumeurs.
Elisabeth a beaucoup écrit. En effet, elle est connue pour ses nombreuses lettres et correspondances. Elle a notamment beaucoup correspondu avec ses enfants, son fils pour lequel elle admirait les exploits militaires, mais elle désapprouvait les fréquentations. Et dans ses écrits, elle donnait aussi beaucoup de conseils maternels envers sa fille. Malheureusement, beaucoup de lettres ont disparu. Elle avait comme surnom Océan d'encre. Elle écrit plus de 60 000 correspondances, et toutes ses lettres sont des sources d'informations précieuses sur la vie au sein de la cour de France.
En effet, elle va correspondre avec l'Angleterre, la Suède, le Danemark, les cours de Lorraine, de Savoie et Modène, l'Espagne et la Sicile. Et dans ses lettres, elle va aborder surtout la cour et l'étiquette. Ses lettres expliquent vraiment la dépravation attribuée à la régence, qui règne déjà dans toute la seconde moitié du grand règne. Elle est aussi consciente de son rang et de ses devoirs. C'est une femme très franche, qui ne mâche pas ses mots. Lorsqu'elle n'aime pas quelqu'un, elle le dit tout haut. Et d'ailleurs, elle ne va pas hésiter dans ses lettres à qualifier, par exemple, sa deuxième belle-sœur, Madame de Maintenon, qu'elle surnomme la ripopée ou la vieille conne. Donc c'est quelqu'un, oui, qui est assez cru. Elle méprise aussi la famille illégitime du roi, à l'exception de son neveu, le comte de Vermandois, car elle est sa tutrice, donc elle ressent plutôt une grande affection pour lui. Et le seul vraiment qu'elle va respecter, c'est Louis XIV, pour qu'elle va beaucoup apprécier. Et ils vont d'ailleurs lier une amitié à deux, parce qu'il va apprécier justement ce côté de son caractère, ce côté franc et très cultivé.
Ouais, ils vont même aller chasser ensemble, au théâtre, à l'opéra, et même faire des soirées mondaines avec le bon monde de la cour.
Et lors de la mort de personnalités royales qu'elle n'aimait pas, comme Madame de Maintenon, elle écrit « La vieille Maintenon est crevée. C'eût été un grand bonheur si cela avait pu arriver il y a quelques 30 ans. »
C'était un peu la Lady Bridgerton Whistledown.
Exactement. Elle utilise beaucoup de vocabulaire grossier, notamment pour le comte de Toulouse qu'elle a qualifié de « chiure de souris ».
Ah oui.
Mais vraiment un respect total toujours envers le roi.
Et d'ailleurs, c'est assez marrant qu'elle soit comme ça, parce qu'en même temps, c'est quand même une femme très cultivée. Elle suit les débats d'idées de son temps et en 31 même une correspondance avec Leibniz, donc c'est un philosophe allemand. Je ne sais pas si la prononciation est bien, mais donc ouais, elle va pas. En fait, c'est son moyen en fait de s'exprimer.
Je pense qu'elle en avait juste marre un peu du monde hypocrite dans lequel elle vivait par écrit, on peut tout dire, on peut se lâcher, on peut se libérer, quoi.
Et même avec elle-même, elle était assez dure parce que, en 1693, quand elle a eu la petite vérole, Dans une de ses lettres, elle se dépeint ainsi. « Il faut que vous ne vous souveniez guère de moi si vous ne me rangez pas au nombre des laides. Je l'ai toujours été et je le suis devenue encore plus des suites de la petite vérole. Ma taille est monstrueuse de grosseur. J'ai la bouche grande, les dents gâtées et voilà le portrait de mon joli visage. »
Mais en effet, elle n'était pas connue forcément pour sa beauté. Enfin, j'ai vu un extrait qui disait « Elle n'est pas une beauté mais pas laide non plus. Blonde, massive, les joues colorées, les yeux bleus, le teint clair. Elle n'a pas la grâce, la séduction et le charme de la cour. » Et c'est ce qui fait qu'elle était finalement exclue, mais elle était, au lieu de s'effacer, dans la cour, elle a décidé justement s'affirmer en disant ce qu'elle pensait et voilà.
Mais à l'époque, justement, comme elle était un peu ronde, je pense, c'était pas favorisé à la cour les femmes qui étaient potelées
Après, je pense que c'était...
un standard de beauté.
C'était un standard de beauté. Après ça, je pense que c'est aussi... je pense que c'était pas toutes les femmes potelées. Après, ce serait intéressant de voir ça, mais c'était aussi, je pense qu'elle s'apprêtait pas non plus énormément avec les robes, etc.
Elle faisait pas attention.
C'était pas quelque chose qui l'intéressait. Et après, il y avait quand même l'importance de la taille marquée et tout ça. Donc, c'était
le
pas.
Corset,
et le visage aussi.
Ses écrits ont été publiés en 1788 en fragments avec les lettres originales de Madame, écrites de 1715 à 1720 au duc Ulrich de Brunswick et à la princesse de Galles. Sa correspondance complète a été traduite de l'allemand et publiée par Georges Brunet en 1855. Les passages jugés trop crus, par contre, y ont été censurés.
Ah oui, d'accord, ouais. En fait, ce qu'on comprend surtout quand on voit sa vie, c'est que sa consolation, sa plus grande consolation, c'était ses courriers, en fait. C'était ses correspondances.
C'était réfugié, en fait.
Et d'ailleurs, le roi l'Élysée, parce qu'à cette époque, le roi avait le droit sur...
Le contrôle.
Et voilà, avait le contrôle. Et donc, en fait, il lisait ce qu'elle disait. Je sais qu'elle a... la seconde partie de sa vie, elle a eu beaucoup de tensions avec Louis XIV, qu'au début, ils s'entendaient très bien. Et en fait, Louis XIV, je pense aussi, avec le temps, a commencé un petit peu à ne plus supporter la franchise et de l'islotte et à prendre mal, finalement, qu'elle parfois, elle le casse aussi. Et donc, en fait, il lisait tout ce qu'elle disait et lui, à bout d'un moment, il ne l'a plus trop apprécié. Mais il a toujours soutenu aussi financièrement quand... son mari, parce que son mari, il faut savoir aussi que il utilisait les biens de l'islotte pour payer des cadeaux à ses amants. Il dilapidait tout l'argent de l'islotte qui, après la mort de son mari, elle se retrouvait avec plus rien. Et heureusement qu'il y avait quand même le roi Louis XIV qui s'occupait d'elle, quoi.
Et même avec ses enfants, elle était assez crue. J'ai lu un truc, par exemple, que d'après le duc de Saint-Simon, elle serait allée jusqu'à gifler son fils sous les yeux de toute la cour quand elle apprend que celui-ci a accepté ses épousailles qu'elle juge indignes de son rang.
Ouais, cette gifle a beaucoup fait parler dans la cour, justement.
Ouais. Et aussi, ce qui était assez... vraiment, elle détestait tout ce qui était français. Et elle importait d'outre-Rhin des petits plats qu'elle aimait et essaya d'habituer la cour à la cuisine allemande en y répandant des potages à la bière et au vin, du boudin, du jambon cru, de la choucroute, de la salade au lard, de la venaison, etc. Donc vraiment, elle voulait s'imposer, quoi. Elle voulait vraiment ne pas être oubliée. Et aussi, pour ça, c'est une anecdote elle n'était pas... Elle a dû changer de religion lors de son mariage, mais en fait, elle en réalité était protestante. Et elle disait...
Elle a dû se convertir au catholicisme.
C'est ça. Et elle se contentait de lire la Bible en pensant que Dieu n'exigeait des hommes qu'une vie pure faite de bonnes actions. Et voilà.
En tout cas, on a appris plein de choses aujourd'hui.
C'est pas le style de femme dont on a l'habitude de parler dans nos radios parce que elle a vécu...
Elle n'est pas forcément fait de choses
dans la monarchie. C'est pas à une époque qu'on ne parle pas beaucoup dans nos émissions de radio, mais vu qu'elle a écrit, c'était quand même une des premières femmes écrivaines, on va dire, parce que ses lettres, ça compte comme des écrits. Et donc, super intéressant de voir...
Surtout son caractère, en fait, c'était intéressant de voir finalement.
Ouais.
Parce qu'on parle beaucoup de Marie-Antoinette au niveau des régentes ou des reines à la cour de l'époque, mais pas beaucoup... elle éclipse un peu les autres, quoi.
Oui, ouais. C'est vrai. Enfin, en tout cas, on espère que vous l'aurez apprécié. Pas une question d'apprécier, mais que vous aurez trouvé cela intéressant.
Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau podcast.
Merci.